Les voix du livre. Une émission proposée par Éline Séjot de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr, en partenariat avec la FNAC de Nevers. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Éline.
Bonjour Claire.
Pour la première émission de la rentrée, nous avons décidé de commencer très fort, c'est-à-dire profond et subtil à la fois. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille Loivier, poétesse et traductrice, universitaire et passeuse de monde et de culture. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et elle ne vient pas seule. Et oui, un plaisir ne vient jamais seul, puisqu'elle est accompagnée d'Anne Brousseau, directrice des éditions Potentille, une maison consacrée à la seule chose importante en ce moment, de la poésie.
Bonjour.
Bonjour Anne.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir toutes les deux dans les studios de BAC FM. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Vous êtes nos invités. Alors, en cette rentrée littéraire, parce que c'est quand même un petit peu l'actualité, il y a beaucoup de matière, 524 romans.
C'est ça. Nous avons tout lu, bien sûr.
Bien sûr, évidemment.
Comme chaque année.
Comme chaque année. Bon, même si les éditeurs ont un peu moins publié.
Oui, oui, une cinquantaine de moins.
Oui, large. Ça va, ça reste. Il y a quand même encore de quoi s'amuser.
Des belles pépites, oui.
Oui. Alors, on attend notamment un nouveau Modiano, hein, qui sera encre sympathique. Modiano, je le rappelle, prix Nobel. Mais aussi Une joie féroce, hein, de Storge Chalandon, sur le combat de femmes contre le cancer. On ne peut pas non plus ne pas parler du roman de Yann Moix, Nivernais, donc le roman Orléans, qui défraie plus que beaucoup actuellement la chronique.
Encore plus que les précédents, oui.
Encore plus que les précédents. Et même au milieu de toutes ces voix qui parlent très très fort, si l'on tend l'oreille, eh bien on pourra aussi percevoir une voix qui mue. Oui, c'est tout à fait différent comme registre. Le dernier ouvrage de notre invitée, Camille Loivier, mais j'anticipe parce qu'elle nous en parlera tout à l'heure. Alors, pour l'instant, Éline, je vais vous laisser la parole, enfin la voix.
Merci.
Puisque vous nous proposez de nous entraîner aussi dans un espace où l'on parle, mais d'une manière très particulière puisqu'il s'agit d'un powwow. Je ne sais pas si je prononce bien.
Moi non plus. Honnêtement, je ne maîtrise pas très bien le Cheyenne.
Je suis un peu déçue, mais bon.
Oui, bah, j'imagine. Oui, effectivement, c'est une grande pépite de cette rentrée littéraire. Un tout premier roman de Tommy Orange qui s'appelle « Ici n'est plus ici », qui est paru chez Albin Michel.
Ah, c'est un titre très énigmatique. Hein.
Alors,
ça donne envie. «
Ici n'est
plus
ici », qui fait référence à la citation de Gertrude Stein, mm-hmm. qui, en revoyant le Auckland de son enfance, avait cette nostalgie de plus reconnaître sa ville. Mm-hmm. Et on va y revenir. Parce que, donc, cet auteur, donc Tommy Orange, est un auteur d'origine cheyenne. Il est tout jeune, il est né en 82 et a grandi à Auckland, dans une communauté urbaine, amérindienne, de cette ville californienne de la baie de San Francisco. Et ce roman est très ambitieux. Il s'agit de rappeler l'histoire des autochtones d'Amérique, de donner voix aux Indiens des villes, car je l'ignorais avant la lecture, mais 70% des Amérindiens vivent aujourd'hui dans des villes, ce qui est le résultat d'une politique de transfert d'Indiens menée aux États-Unis dans les années 50-60, les inciter à quitter les réserves pour venir dans les villes, une mm-hmm. politique d'assimilation, et pour Tommy Orange, l'étape finale de l'effacement de l'identité de l'Indien. Donc c'est donc ces 12 personnes, ces 12 personnages qu'on va suivre, 12 Amérindiens donc mm-hmm. urbains, qui ne se sont pas perdus dans la multitude de la ville, mais se sont renouvelés. Ils sont présentés par une construction narrative très complexe, mais terriblement intelligente.
Oh bah dis donc, ça donne envie.
Ah
là,
oui, hein. Ce sont en fait de courts chapitres, donc on présente ces hommes, ces femmes, ces enfants, des histoires qui se répètent, qui se recoupent, qui se rejoignent, assez dures souvent, une mère qui boit trop, celle qui violait, abandonne son enfant, il y a la drogue, il y a le
suicide.
C'est
lourd en effet. Hein.
C'est assez lourd, mais cette construction fait que le rythme palpite vraiment, on mm-hmm. sent la chair, on sent le sang,
on sent l'humanité.
Et la rage aussi de cet auteur. L'écriture est très ciselée, il y a un vrai souffle poétique. J'imagine que vous êtes sensible, Camille, Anne, Claire également. Il y a aussi un grondement. Donc comme cette rage, cette ambiance, tout est tendu et la tension est palpable. Elle grimpe jusqu'au grand powwow.
Le fameux
powwow. Car on rencontre tous ces personnages au moment où ils vont tous assister à ce grand powwow organisé à Auckland. Donc le powwow, ce sont des rassemblements d'Amérindiens mm-hmm. Où ils se retrouvent et ils revêtent leur costume d'apparat pour rappeler leur tradition, leur histoire et ne pas oublier leur culture pour tout simplement ne pas disparaître, en quelque sorte.
Oui, ne pas disparaître dans la culture dominante.
Tout à fait, pour pas finir par voilà, disparaître, paraître totalement effacée par la civilisation américaine.
C'est un acte de résistance, d'une certaine manière.
C'est ça. Et c'est aussi le climax du roman, puisqu'on sait dès la page 34, donc je révèle rien, qu'un des personnages souhaite braquer le pot-au.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, braquer le pot-au ?
Eh bien, puisqu'il y a des stands, il y a de l'argent, il y a des bons cadeaux.
Oula, d'accord.
Voilà, donc à partir de là, le récit progresse tout le temps vers ce moment. On croise donc ces personnages dont les histoires vont se mêler sans qu'ils le sachent. La maille se tisse, on arrive à ce poho, donc on est dans le suspense, dans la tension.
Ah oui.
Et c'est aussi une immersion totale dans la culture amérindienne traditionnelle. On voit les couleurs des plumes, des costumes, on entend les tambours, on découvre la cérémonie du peyote. Un cactus avec des propriétés hallucinogènes, les rituels, mais c'est aussi une plongée brutale donc dans cette communauté à l'histoire pavée de massacres, qui est très loin des clichés véhiculés par le cinéma, notamment par l'image qu'on peut se faire de l'Indien dans les réserves. C'est l'Amérindien urbain qui tente de survivre sans se dépouiller de leur identité. Et voilà, pour faire référence au titre « Ici n'est plus ici » et Gertrude Stein, c'est que pour un des personnages, la terre ancestrale des Indiens d'Amérique a été recouverte de béton, de gratte-ciel. Leur mémoire a été enfouie. Donc « Ici n'est plus ici, là n'est plus là ».
Le monde qu'ils ont connu n'existe plus.
N'existe plus. Et ça a été consacré meilleur roman de l'année 2018 par la presse américaine. J'espère vraiment qu'il en sera pareil en France. Je trouve ça, ce témoignage, absolument bouleversant. On peut difficilement l'aborder sans penser aussi à Richard Vagamez, ce grand auteur amérindien de la tribu Ojibwe. Je ne sais pas si je prononce bien. J'ignore totalement. Qui est décédé en 2017 et dont le dernier roman, inachevé, donc qui est la suite des Étoiles s'éteignent à l'aube. On retrouve Starlight, c'est le nom du roman, est sorti à cette rentrée littéraire aussi chez Zoé. Donc, qu'il soit assuré, la relève est totalement prise par ce brillant Tommy Orange.
Et c'est un roman coup de poing un petit peu, là.
Ah oui. Oui. C'est une nouvelle voie.
On s'en prend plein culturellement, littérairement.
Oui, c'est dur, mais c'est nécessaire de lire ce texte. Il y a des moments un peu plus doux, quand même. On sent l'amour dans ce texte qui déborde, qui est rageux. On sent cette volonté de se transmettre. On sent les grand-mères attentives. Il y a aussi... Enfin, bon, lisez-le. Il écrit beaucoup mieux que moi. Lisez-le. Il y a un autre texte dont je voulais vous parler, si vous voulez bien, qui fait vraiment écho à celui-ci dans sa construction et dans les thèmes abordés. Alors, il s'appelle Un autre tambour. C'était aussi un premier roman de William Melvin Kelley, qui est né en 37. Et c'était son premier roman, paru donc en 62, et qui est réédité là chez Delcourt ce 4 septembre. Alors, vous allez voir, c'est assez sombre aussi.
C'est une vraie fausse nouveauté.
Voilà, c'est une réédition d'un texte qui compte beaucoup dans l'histoire de la littérature américaine, notamment afro-américaine. La trame, on est en juin 57, dans un état fictif du sud des États-Unis, coincé entre le Mississippi et l'Alabama. Et Tucker Caliban, un homme noir, répand du sel sur ses terres nouvellement acquises.
Du sel ?
Du sel. Pour qu'il le rendre totalement
stérile. Oui, c'est un peu surprenant quand on achète des terres de les rendre stériles.
Et ça ne s'arrête pas là. Il abat son bétail, il mille fois sa maison et il quitte l'État avec femme et enfants. Et là, tous les noirs de cet État lui emboîtent le pas. C'est un exode, soudain, rapide, sans bruit, personne ne l'a vu venir. Les maisons restent ouvertes, il n'y a plus rien, ils ne reviendront pas. Et cet exode, ce qui fait l'originalité de cette œuvre, c'est qu'il est raconté par plusieurs personnages, mais tous des hommes blancs. C'est le regard des Blancs porté par un geste de prise de liberté des Noirs. Ils vont se poser des questions, comment cela a-t-il pu arriver, quel élément déclencheur, est-ce une bonne chose? On est dans le Sud, donc qui va balayer les magasins, ça va faire de l'emploi ou pas? Alors, on est bien dans le Sud où le mot nègre a encore allègrement cours.
Oui, et puis on est sur des questions économiques avant d'être sur des questions...
Oui, voilà, après, bon, la prise de liberté, ils sont loin de là, les personnages qui observent pour l'instant. Pas tous, mais bon... Et il y a le tout jeune garçon, Mr. Leland, à qui Tucker, donc l'incendiaire, confie « Tu es jeune, pas vrai, et tu n'as jamais encore rien perdu, n'est-ce pas ?» Évidemment, le garçon pense à ses billes, par exemple, et explique à papa « Pourquoi il me dit ça ?»
C'est son niveau de choses qu'il a perdu ou gagné.
Tout à fait. Sûr. Et c'est cette question de liberté prise qui plane sur le récit, et la question de comment peut-on savoir que l'on a perdu quelque chose, ici à liberté, quand on ne l'a jamais eu.
Ah, mais c'est carrément philosophique comme questionnement.
N'est-ce pas? Tous les lycéens, c'est au bac prochain. Et vraiment, la force de cette œuvre, c'est qu'il s'accapare, cet auteur s'accapare le regard des Blancs pour parler de sa communauté. Il y a dans cet état sudiste fictif, vous l'aurez reconnu, sa poussière, ses hommes rustres, qui passent leur journée là, rassemblés devant l'épicerie du coin, on ne sait pas de quoi y vivre, quelque chose de très très folklorien.
Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Oui, on est vraiment dans cette ambiance, dans cette littérature sudiste, enfin du sud plutôt, pardon.
Oui, pas de confusion.
Voilà.
je pense que l'auteur n'apprécierait pas.
Oui, je pense pas, non. Et oui, Melvin Calais, comme Faulkner, comme Joyce, elle s'est aussi adonnée à la littérature expérimentale. Donc deux textes qui se font écho à des décennies d'écart. Préférer que ne pas, peut-être. On a encore ces questions à se poser. Deux très beaux textes. Donc, Un autre tambour de William Melvin Kelly, 62, et Ici n'est plus ici, Tommy Orange, 2019. Donc, à découvrir.
Un tropisme atlantique états-unien.
Mais je trouve ça intéressant de les mettre en perspective.
Oui, c'est vrai. Surtout que cette réédition arrive dans un contexte qui n'est pas a priori particulièrement favorable à ce type de roman.
Non,
il n'y a pas d'occasion particulière pour une réédition comme celle-là.
Il y a toujours une occasion particulière, c'est l'amour de la littérature et de la transmettre.
Tout à fait. Mais donc, deux textes très très forts qui vont... en fait, quand on ressort de ces lectures, on a quand même une autre vision du monde, finalement.
Oui, on se sent plutôt privilégié.
Notamment. Je vois. C'est sûr que...
Mais c'est des textes qui remuent et on se rappelle. Voilà, on les ferme. Deux mois plus tard, on se rappelle de cette ambiance, du sujet. On ne passe pas facilement à autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est une phase de transition avant de se replonger dans une... Parce qu'on est vraiment pris dans une ambiance, dans une communauté entière.
Oui.
Mais c'est des plongées, des immersions.
Le deuxième texte dont vous avez parlé est quand même assez violent. Cette volonté de ne rien laisser derrière soi et de partir en stérilisant la terre, en tuant son bétail.
On ne saura jamais ce qu'il va devenir du sort de ces personnes noires. Ils partent.
Ne dévoilez pas tout.
Oui, mais alors, si vous lisez la préface, on le sait dès le début.
Ah, mince.
Une très très belle préface.
Alors ne lisez pas la préface avant de lire le roman.
Je vous la conseille en tout cas de le lire après. C'est un article de Catherine Schultz qui est paru dans le New Yorker en janvier 2018, qui s'appelait Le géant oublié de la littérature américaine. On découvre à quel point cet homme a marqué son époque et ensuite est tombé dans l'oubli. Et si je peux dire juste une phrase de cet article. Bien que l'intrigue d'Un autre tambour repose sur les actions individuelles d'Afro-Américains, l'histoire est racontée donc exclusivement du point des Blancs. Une idée tout aussi ingénieuse, une affirmation par la fiction en quelque sorte du postulat de l'historien Leron Bennett Jr. assurant qu'il n'y a pas un problème noir en Amérique, le problème de race en Amérique est un problème de Blancs.
Comme ça, les choses sont claires.
Elle précise, c'est par ailleurs magnifiquement exécuté, je ne suis pas la seule à le dire, voyez, hein.
Oui, donc de quoi donner matière à réflexion au lecteur.
J'espère.
Oui, je pense que là, oui, sans problème. Je ne sais pas si vous avez, si vous souhaitez réagir à ces deux propositions de romans.
C'est intéressant. Celui sur les Indiens, moi, je serais très tentée de le lire.
Ouais. Je dois le prêter à une collègue avant. Je te le prête.
Je vois qu'il y a du trafic de livres. très bien. Donc, je vais laisser la parole au poète que vous avez choisi, Anne. Rien de moins que Fernando Pessoa, chanté par Marisa. Donc on écoute maintenant. Alors c'est tout à fait différent. Hein, on revient sur le continent européen. Donc on écoute Cavaleiro Monge.
Caminhais libertos. cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizonte, caminhais libertos, sem ter horizontes, caminhais libertos. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Ei, cavaleiro monge, por penhascos pretos, por rios sem ponte, caminhais em mim.
C'était un fado magnifique sur un texte précieux. Alors j'avoue, hein, pour moi, beaucoup de souvenirs, puisque j'ai vécu 4 ans à Lisbonne, un petit coup de saudade quand même, je dois le reconnaître. Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Pour d'abord le fado,
oui.
Qui est, voilà.
Hein, qui ça est, me paraît une excellente raison.
Voilà. J'aime beaucoup cette musique où il y a vraiment un émotionnel très palpable, on va dire, très vibrant. Et puis, voilà, en plus, voilà, je trouve que Marisa, c'est vraiment très, très beau. Et puis, Pessoa, parce que, voilà, j'aime beaucoup ce poète. Donc, je trouvais que chanter Pessoa, c'était une bonne idée, très bonne idée.
Vous oui. faites plaisir à Claire également.
Oui.
Non, je reconnais que j'aime beaucoup ce poète. Donc, c'était un plaisir pour moi de l'écouter. Mais alors, on va revenir à l'actualité littéraire et ben, je voudrais tout d'abord féliciter à distance, je ne sais pas si elle nous écoute, Virginie Rapia et Adrienne Yabouza qui ont obtenu le premier prix jeunesse pour l'album Méchante Nuit au Salon du Livre d'Alvar. Un très bel album, alors moi je le conseille, hein, à offrir sans modération, qui se trouve bien sûr à la librairie Jean de la Lune. Donc n'hésitez pas, précipitez-vous, il est là-bas, il vous attend, il est tout chaud. Donc dans l'actualité littéraire aussi ce mois-ci, alors à la FNAC ce 14 septembre, Lily Bohème dédicacera son livre qui est un pas à pas pour réaliser différentes créations. Donc elle vend aussi d'ailleurs un certain nombre de ses créations. Ce sera le 14 de 15h à 18h à la FNAC de Nevers. Et le 28 septembre, Amélie Louis dédicacera son nouveau livre qui s'appelle Capitulum de 15h à 19h également. Donc ça, c'était à la FNAC. Également au Centre culturel Leclerc, ce 7 septembre, donc c'est bientôt, Sylvain Gillet viendra dédicacer à partir de 10h son ouvrage publié aux éditions Tote. Alors c'est un jeu de mots, donc je vais le lire tel qu'il est écrit. Ludivine comme Edith, donc le prénom Ludivine et le prénom Edith, donc jeu de mots, n'est-ce pas, le Divine Comédie. Donc le 7 septembre à 10h, à partir de 10h, et également le 14 septembre, JDR, ce sont des initiales, il n'y a pas de nom, c'est son nom, JDR Volkin, viendra dédicacer ses deux romans, Flo, donc le mot anglais, F-L-O-W, et Il suffit d'un regard, à partir de 10h. Et eh bien, nous avons en direct les actualités du Cyprès.
Oui, alors au mois de septembre, le samedi 14, nous allons recevoir à Jean de la Lune, Adèle Tariel et Jérôme Perra, édité aux éditions merveilleuses du Père Fouettard. Et
c'est déjà tout un programme.
Oui. Mais c'est pour les enfants, tous les enfants sages et moins sages.
Bon, ça va alors.
Ils dédicaceront plusieurs de leurs œuvres, et notamment Carnivore, qui...
Oui, c'est quand même, le Carnivore, oui, aux éditions du Père Fouettard, c'est pour les enfants, vous êtes sûr?
C'est vraiment très mignon, et c'est conseillé dès 4 ans.
Ah bon, ça va alors,
oui,
4 ans,
ça sera de 14h à 19h.
Donc, vous notez bien, 14h à 19h, le 14 septembre. Merci beaucoup, Éline. Et alors, les éditions Potentilles ont aussi une belle actualité ce mois-ci, et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne Brousseau pour nous en parler. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cette rentrée de septembre aux éditions Potentilles?
Alors donc, un petit titre de Camille Loivier, Une voix qui mue.
Petit, juste par la
voilà,
taille, hein,
voilà,
je précise.
Voilà, c'est ça, pour le format, mais avec un beau texte, très beau texte, et qui inaugure en fait une nouvelle collection, puisque les éditions ont fait une petite pause pendant un an et demi environ, mm-hmm. et donc ça redémarre avec ce nouveau format, voilà.
Oui, donc, peut-être que vous pouvez décrire le format pour les auditeurs qui ne le voient pas.
Oui, donc, il est bleu clair. C'est une petite jaquette, enfin, c'est un peu haut, mais une jaquette dans laquelle est inséré des feuillets, enfin, sont insérés des feuillets. Voilà, donc, quelque
avec
chose...
un petit rabat.
Ouais, un petit rabat, sobre.
Mais, sobre, classique, oui. Et en même temps avec une petite pointe de fantaisie.
Voilà.
Belle objet.
Oui. Et ouais. Donc, je précise pour ceux qui seraient surpris, il est normal que les feuillets ne soient ni cousus ni agrafés.
Voilà.
Ça fait partie de la beauté de l'objet.
Tout à fait.
Alors, Anne, vous êtes donc directrice des éditions Potentilles, qui sont situées tout près d'ici, à Varennes-Vauzelles.
Oui.
Pourquoi avoir créé cette maison d'édition dédiée à la poésie, qui est quand même un genre très exigeant, en plus dans des formats réduits, double contrainte? Alors, vous aimez relever les défis?
Peut-être. En fait, l'idée des éditions, c'est des années auparavant, on va dire immergée dans la poésie par des lectures, par aussi une vie avec quelqu'un qui animait une revue de poésie, et donc je l'aidais un petit peu, et puis
ça voilà. A déteint sur vous.
Voilà, tout à fait. Et puis un domaine qui m'enthousiasmait beaucoup, bon, pour les lectures personnelles, mais aussi pour le fonctionnement, je dirais, de la poésie contemporaine, c'est-à-dire des lieux, des festivals, des salons, des lectures. Un moment est arrivé où il y a eu, où j'ai eu l'envie de participer, en fait.
Vous vous êtes dit, voilà. Maintenant je vais apporter ma pierre à l'édifice
voilà,
politique.
Voilà, tout à fait. Et dès le début, j'ai eu l'idée d'un petit format, parce que ce qui m'intéressait, bon, déjà... dans le domaine, donc, on va dire, de la poésie contemporaine, il y a beaucoup, beaucoup de formats différents, d'initiatives diverses et variées. C'est aussi un aspect que j'aime beaucoup.
Le côté ouais, variété.
Ouais,
la liberté
de format. Je dirais presque autant d'éditeurs, autant de formats. J'exagère un petit peu, mais il y a de ça. Donc voilà, moi j'avais l'envie d'un petit format, parce que mon idée de départ c'était de dire qu'on a des recueils ou des romans qui sont des lectures qui ont cours sur une certaine durée, on va dire, et puis un format plus petit, bah, pour moi c'est une lecture qui vient s'insérer entre, voilà.
Oui, vous m'aviez parlé d'une fenêtre ouverte,
oui,
sur une œuvre et d'une lecture qui se glissait entre d'autres œuvres.
Voilà, c'est ça.
J'avais beaucoup aimé cette image,
ouais.
D'où la finesse, ouais, du livre, parce que s'il est trop épais, il ne peut pas se glisser.
Voilà.
C'est très rusé,
oui,
tout est calculé. Hein. Alors, vous ne publiez que des livres qui correspondent à votre ligne éditoriale. Quelle est votre ligne?
Voilà, alors la ligne éditoriale, pour ce qui est de la poésie, donc je dirais que même si d'un livre à l'autre, ce sont des poèmes différents, hein, tout n'est pas vraiment très très proche, il y a des initiatives différentes, mais quand même, pour moi, les points communs, ou ce vers quoi je tends dans mes choix, c'est d'une part un travail sur la langue, la langue comme matériau, et puis la deuxième chose, et j'aime bien que les deux s'équilibrent, enfin, dans mon idée en tout cas, c'est une certaine approche d'une réalité humaine, je dirais, nos existences, nos nos ordinaires, qui ne sont finalement pas si ordinaires dans nos intérieurs.
L'ordinaire extraordinaire.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais, j'aime bien cette idée. Et une poésie qui a à nous dire, en fait. Voilà.
Oui, qui touche à l'universel, ouais, par une expérience individuelle.
Peut-être. Exactement, c'est exactement ça. Ouais.
Donc oui, l'expérience humaine, pour vous, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le texte poétique.
Oui, c'est très très important. Ouais.
C'est ce qui va faire la différence entre un texte que vous acceptez et un texte que vous allez laisser de côté.
Voilà, si je sens que ça... Enfin, moi, je le dis comme ça, si ça va faire quelque chose d'un peu plus esthétique et qui peut-être est moins attaché à un sens, ça me touche moins, effectivement. Ça m'intéresse moins.
Et comment est-ce que vous êtes venue à la poésie, justement ?
Alors, je suis venue à la poésie en venant dans la Nièvre.
Eh bien, voilà, la Nièvre, terre poétique.
C'est amusant, terre de poésie.
C'est trop méconnu, hein.
Voilà. Je suis arrivée dans la Nièvre en m'inscrivant à une petite association. À l'époque, il y avait quelques membres, le Manège du Cochon Seul, donc ça nous ramène très, très loin.
Pour ne pas le citer, mais oui,
je le dis,
qui est bien connu, mais
voilà,
tout à fait. Hein.
Et donc, j'étais venue à une réunion de ses membres. Et là, j'ai rencontré deux personnes. Bah, mon futur mari, voilà.
Oui, qui, déjà, ça partait bien. Hein.
Voilà. Voilà, qui avait le projet donc de monter cette fameuse revue. Et puis, j'ai rencontré aussi une petite jeune femme, faisait une toute petite revue, vraiment avec les moyens du bord, qui s'appelait Le Squelette Laboureur. Et donc, je rencontrais Valérie Rousseau.
Bah, voilà. Rien donc, que Valérie Rousseau.
Directement dans... Voilà. Et c'est là que j'ai vraiment découvert des écritures que je ne connaissais pas du tout.
Et là, tout de suite, ça a été la révélation.
Oui, parce que c'était vraiment des écritures qui étaient totalement... Enfin, je ne savais pas qu'on pouvait écrire comme ça. Voilà.
Hein, ah oui,
en sortant de l'école.
C'était vraiment la révélation.
Voilà. Les poètes contemporains, j'avais jamais lu véritablement une poésie de cette forme. Hein. J'étais choses plus classiques en milieu scolaire. Donc là, ça a été vraiment une grande découverte. Ouais.
Et donc, du coup, l'amour fou.
Voilà, ça m'a plus jamais quitté. Ouais.
Merci à la Nièvre.
Oui, ouais, exactement.
Hein, c'est
tout à fait.
Une rencontre. Hein, comment on rentre dans quelque chose, c'est toujours
intéressant. Surtout là, ça a tout de suite correspondu à ce que vous attendiez.
Bah oui, puis je dirais que ça a été une entrée directement, vraiment, vers des gens dans le domaine de la poésie, enfin en poésie, des grands poètes, je dirais. Moi, un des premiers que j'ai lu, c'est Antoine Aimaz. C'était quand même.
On a connu pire.
Voilà. La découverte de cette écriture, c'était vraiment quelque chose qui a compté pour moi. Ouais.
Oui, ça vous a marqué profondément.
Ah oui, profondément.
Et selon vous, quel est le rôle de la poésie aujourd'hui ?
Alors, son rôle, enfin, le rôle, moi, que je lui...
oui,
auquel je suis attachée, finalement, je pense que la poésie est un espace de liberté, je dirais, il y a une indocilité de la poésie.
Rebelle.
Voilà. Dans le sens où... Bon, comme je disais tout à l'heure, des formats très différents, des formes très différentes. Aujourd'hui, le vers libre, à chacun finalement de chercher sa voix, VOX, VOIE. Mm-hmm. Longtemps, je me suis demandé pourquoi la poésie était si peu sur les grands médias. Et,
oui, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose
souvent. Et je pense qu'en fait, elle n'est pas très adaptée parce qu'elle prend des voix décidément têtues.
Oui, la fameuse indocilité dont vous venez de parler.
Et je pense, c'est en ça aussi qu'elle est très vivante, parce que la poésie en France est très vivante. Il y a beaucoup de poètes, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui éditent. Il y a beaucoup d'initiatives,
des salons,
des festivals, beaucoup de enfin, il y a une variété d'écritures. Toute sensibilité trouvera, je pense, son poète.
C'est comme un espace de liberté.
Je pense que c'est vraiment très très important. Aujourd'hui, très important, c'est sûr, oui.
Alors, un petit conseil de lecture, peut-être ?
Alors, le petit conseil de lecture, c'est un...
Un poète bien d'aujourd'hui, bien dans l'humain. On vous fait confiance.
Donc, c'est Julien Bosque, La demeure et le lieu, et c'est aux éditions Faye Fioc. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que donc Julien Bosque aborde l'environnement autour de sa maison, la nature, les oiseaux, les arbres. C'est un très très vieux thème. C'est pas récent.
Mais enfin, bon, il est vieux, mais je crois qu'on n'a jamais fini d'en parler.
Et en même temps, ça fonctionne toujours. Il y a toujours beaucoup à dire, hein, et c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit voilà, il cherche pas l'original.
Il cherche pas sur le thème, mais sur
non,
la forme,
voilà,
sur l'exploration.
Mais il a une façon de l'aborder, bah, la sienne. Mm-hmm. Et voilà, ça m'a beaucoup
avec
plu.
Son intérieur extraordinaire.
Voilà, c'est ça.
Alors nous allons écouter un petit morceau de l'intérieur extraordinaire de Julien Bosque.
Une fenêtre ouverte sur le sud, la seconde sur l'ouest, lui vers l'est. Le jardin, le sous-bois, la mer éperdue. Un fauteuil recouvert de velours vert, un garde-manger rouge à deux portes surmonté d'un évier en grès blanc. Un poêle où charme, être, chêne se consument à la verticale. Et, moitié contre le mur, moitié face au midi, par la fenêtre, une table de désordre dévouée au silence et à la lampe. Phare qui tant et tant tente d'éviter le feu du naufrage.
Alors Claire, je vous laisse enchaîner après.
Oui, merci Evelyne. Justement, j'étais en train de me dire, oula, ouf,
vous c'est très, très, très
pas
beau,
la tâche, non, c'est superbe. Et effectivement, c'est à la fois banal et très ressenti.
C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est une alchimie, vraiment, c'est la magie.
Oui,
c'est la magie de la poésie. Oui.
Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette superbe lecture. Alors, nous allons faire une petite respiration musicale. Camille, vous avez choisi une musique pour marquer cette deuxième pause. Donc, on va écouter donc Scarlatti, une sonate par Pierre Antaille, pour nous permettre de revenir au réel, à une autre forme de réel, après ce magnifique texte de Julien Bosque. Donc, on écoute Scarlatti.
Thank you.
Alors, nous venons d'entendre Scarlatti, la sonate 15-531 par Pierre Antaille, donc une musique choisie par Camille Loivier, qui est aujourd'hui notre invitée dans Les Voix du Livre, avec son éditrice Anne Brousseau, des éditions Potentille. Alors, Camille, pourquoi cette musique ?
Ah oui, j'aime beaucoup cette sonate K531.
Ah oui, pardon.
Excusez-moi. Et je l'ai énormément écoutée. En l'écoutant, j'ai eu un souvenir d'une boîte à musique avec deux petites danseuses tournant que je voyais quand je visitais ma grand-mère.
Ah oui.
Qui parfois avait cette générosité de nous ouvrir sa boîte à musique. Elle le faisait très rarement. Et c'était plutôt dans son dos, d'ailleurs, que je l'ai regardée.
Allez, hop, discrètement, pendant qu'elle ne regarde pas, hop, on ouvre la boîte à musique. Mais alors, c'est pas discret, parce que ça fait du bruit, la boîte à musique.
Et oui, donc elle se retournait assez vite. J'avais le temps de m'identifier avec l'une des deux danseuses.
Ah oui, donc c'est vraiment un souvenir.
Qui est revenu en écoutant, oui. Je me suis dit, ah, c'était ça. Ce côté mécanique, oui, j'aime beaucoup.
Toute une ambiance, toute une image, toute une époque, en fait.
Oui, et puis cette musique, il y a des grands silences au moment, en plein milieu, et montrer aussi que la musique, c'est dans le silence que ça résonne.
Oui, que le silence fait partie de la musique.
Voilà, moi j'aime beaucoup cette...
Donc voilà l'explication. C'était la boîte à musique.
C'était la boîte à musique.
Alors, Camille Loivier, vous êtes née dans la Nièvre, vous êtes poétesse, également traductrice de chinois, en particulier du romancier taïwanais Wang Wenxing. Vous enseignez aussi cette langue, avec laquelle vous entretenez un rapport singulier, dont il est question dans votre dernier ouvrage, « Une voix qui mue », publié en juin dernier aux éditions Potentille. Où vous avez déjà d'ailleurs publié Joubarbe. Vous êtes également traductrice de poètes chinois de l'ère Qin, donc 1644-1911, puisque les ères chinoises sont moins bien connues que les règnes des rois en France, encore que. Et vous avez également publié plusieurs titres chez Tarabuste et chez Isabelle Sova. Vous avez aussi dirigé pendant 17 ans la revue Neige d'août, c'est déjà tout un programme, une revue de poésie où l'Asie rencontre l'Europe. Donc oui. On sent que l'Europe et l'Asie sont quand même ont une place importante dans votre vie, dans votre écriture. On aimerait bien savoir quelle est justement l'influence de la langue et de l'écriture chinoise sur votre poésie.
Ah, mais c'est tout un...
Il faudrait 3 jours. Un séminaire. Alors, il va falloir réduire.
Bon, c'est vrai que si on ne parle pas de l'adolescence...
Sautons cette étape.
Bon, c'est vrai que c'est en Chine, on peut dire. J'ai écrit mes premiers poèmes en chinois en me promenant dans les dictionnaires.
Ah,
un
oui.
Dictionnaire, le dictionnaire Ricci. Et en faisant une petite collection de caractères pour les mettre bout à bout, comme dans un rébus, et en faire un poème. Je me suis beaucoup amusée à prendre les caractères les plus compliqués, les plus oubliés, les plus drôles. Et ça donnait une drôle de chose que je retraduisais évidemment en français. Mais très vite, je me suis aperçue, c'était très joli tout ça, mais ça n'avait rien à voir avec la vie. Hein. Donc je suis descendue dans la rue, je me suis dit, ah oui, peut-être c'est mieux. Et j'ai continué à écrire en français. Sur la vie que je menais sur place.
Donc vous êtes sortie du dictionnaire pour aller dans la rue.
Eh oui. Et donc la langue écrite est devenue une langue orale. Donc à partir de ce moment-là, oui, j'ai commencé à traduire déjà des poètes très anciens du 3e siècle.
Ah oui, en effet.
Donc j'étais en fait partagée entre le chinois classique, qui est normalement plutôt un chinois écrit, et la langue commune, qu'on entendait dans la rue, dans la bouche des gens
oui.
qui passaient.
C'était pas
et
la même, en effet.
Été, voilà. Bon, j'étais plutôt très longtemps tentée par cette langue écrite qui n'a pas besoin de se parler, finalement, qui n'a pas besoin de faire de bruit. Et j'aimais ce mutisme de la langue chinoise. Puis, finalement, après de longues années et de différents cheminements, je suis arrivée plutôt à l'époque moderne, plus vivante, plus féminine.
Où la langue se parle.
Où la langue se parle, avec des sonorités qui me convenaient.
Oui, des sonorités qui vous convenaient. En Chine continentale ou à Taïwan ?
À Taïwan, justement. Je pense que le chinois du continent à cette époque ne me convenait pas du tout. C'était un chinois quand même assez marqué par la pensée communiste, la propagande, etc. Et l'impression que les gens crient et non parlent. Bon, on s'en rend pas
gênant.
Complètement compte forcément parce que le son étant toujours assez fort.
vous pouvez baisser, s'il vous plaît.
On s'en rend compte quand on revient. Donc, pourquoi cette langue que j'ai choisie, finalement, je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite d'elle. Pourquoi cette mélodie que j'espère pouvoir recevoir n'arrive pas à complètement être adéquate. Et bon, peut-être à force... déjà, j'ai traduit des auteurs taïwanais contemporains. J'ai parlé avec cet auteur, Wang Wenxin, et déjà sa façon de parler, son débit très lent, sa manière de répéter, d'aller dans des mots que je connaissais, des façons de culture, une pensée que je connaissais aussi, c'est-à-dire une bonne connaissance à la fois de l'Occident et de la Chine, mm-hmm. pas l'un ou l'autre. Et puis,
une
liberté, une singularité, une individualité, a fait que tout à coup, au bout de X années, je me suis mis à adorer la langue orale et à totalement oublier la langue écrite en me disant que tout était là.
Total.
Tout était là. Et voilà, quand je suis à Taïwan, je n'écris rien, je ne fais qu'écouter et noter tout ce qui se passe. Tout.
Et puis les gens ne crient pas, si j'ai bien suivi.
Non, ils ne crient pas trop.
Alors justement, vous êtes traductrice. Qu'apporte à votre écriture le passage d'une langue à l'autre ?
Il me déporte plutôt qu'il m'apporte. Puisque la langue chinoise est agrammaticale, et c'est sa chance, elle n'est pas rentrée dans le corset qu'on a essayé de ficeler autour du corps au XVIIe siècle et puis au XIXe, c'est-à-dire nos grammaires latines imposées sur cette langue qui est une langue rythmique, qui est une langue finalement où il y a une grande souplesse, une grande élasticité. Donc c'est finalement cette façon... m'adapter à cette souplesse qui a fait que j'ai complètement détraqué le français au point de tout oublier ce que j'avais appris.
C'est complètement différent. On passe d'un monde à l'autre, linguistiquement.
Ah oui, il n'y a plus de pronoms personnels, plus féminin, plus pluriel, plus conjugaison.
Ça adieu
les conjugaisons.
Oui.
C'est une grande liberté. Mais aussi, comment on remplace tout ça? Et finalement, sa propre langue reprend goût. Puisqu'on se dit que ces conjugaisons, ce n'est pas simplement des choses qu'on apprend par cœur et des fautes d'orthographe que l'on fait. C'est aussi un sentiment que l'on va mettre dedans. Et lequel ? Et comment ? Et pour quel but, finalement ? Donc, j'ai réappris ma langue, voilà. Je l'ai réapprise.
Je crois que c'est une influence très forte, quand même. Ah, oui, oui, parce que dans votre livre, vous parlez de langue maternelle, du chinois comme étant votre langue maternelle.
Alors oui, le chinois de Taïwan est devenu ma langue maternelle. Parce que il paraît, moi je ne me vois pas, mais quand j'arrive à Taïwan, je suis quand même poisson dans l'eau. Et c'est vrai que je me sens bien, et tout va bien, j'ai l'impression de tout comprendre, et tout est en humidité, tout est humide, tout est en douceur. Et il n'y a plus de barrière, de paroi entre le monde et moi.
Il n'y a plus de corset, vous parliez
de
corset tout à
l'heure. Il n'y a plus de corset, il n'y a pas non plus de pieds bandés. On est tout... En souplesse. Et finalement, quand j'entends cette langue, oui, j'ai l'impression de tout comprendre, tout connaître.
Oui, donc ça a vraiment complètement changé votre rapport à la langue française et à la manière de l'écrire, finalement.
Alors, oui, j'ai appris à écrire avec ces deux langues, finalement, puisque j'ai écrit, quand je parle d'écriture, en tout cas poétique, le reste, c'est autre chose, et ça n'importe peu. L'écriture poétique, pour moi, c'est finalement un questionnement, une recherche dans ces strates de langue, quelle qu'elle soit, finalement. Qu'est-ce que c'est que d'apprendre une langue ? Pourquoi on a besoin d'une langue pour... Et qu'est-ce qu'on dit ? Et d'où viennent ces mots qu'on a dans la bouche, qu'on entend ? Est-ce que c'est les miens ? Est-ce que c'est les siens ? Et comment je transforme cette langue pour qu'elle devienne mienne et que je dise ce que j'ai à dire, que je pense que j'ai à penser, et non pas qu'on me... Voilà, que ce soit du contreplaqué...
Ah oui, d'accord.
Pire que la langue de bois,
pas
encore.
Pas du, oui. Le contreplaqué, pire que la langue de bois, je note. Pensez-vous qu'il faille être un grand lecteur pour être un poète ?
Il faut lire. et écrire. Je pense que quand on lit, on écrit, on lit, c'est le même geste, c'est le même mouvement. Alors bien sûr, il n'y a pas d'obligation d'écrire quand on lit, mais quand on est pris par la vague des mots, par les mouvements des mots, on est emporté par ce geste qui nous anime, qui nous donne beaucoup de bonheur ou de vision ou d'audition. Et oui, je ne vois pas comment l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, ça me paraît assez impossible. Et de même la traduction. Traduire, c'est une manière de lire, c'est aussi une manière d'écrire, une manière, pareil, de réfléchir sur soi, sur le monde et sur la langue.
Tout se tient, en fait.
Tout se tient.
Effectivement. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans votre... différemment, mais ce qui est esquissé aussi dans votre texte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité ?
Alors, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être publiée par Potentille pour Une voix qui mue récemment. Et en fait, c'est cette expérience dont je viens de vous parler. Mm-hmm. C'est en l'écrivant que je l'ai ressentie. C'est en l'écrivant que j'ai senti qu'est-ce qui s'était passé, en fait, en moi, du chinois de Nankin au chinois de Taïwan, de Taipei, en fait. C'est quand même le chinois d'une capitale. Et je me suis dit, mais exactement la même chose que dans mon enfance, une espèce de français, de paysage, et un français plus guindé. Ah. Et la possibilité de choisir entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Des grands trébuchements, et on parle ni bien d'un côté, ni bien de l'autre, personne ne vous comprend, et vous êtes mal partout. Et au lieu de me sauver de cela par la langue chinoise, je suis retombée dans le même piège.
À passer de l'un à l'autre. Vous pensiez avoir trouvé l'échappatoire.
Et non, c'est-à-dire qu'on n'échappe jamais. On s'échappe jamais. On revient toujours, malheureusement, à des endroits que l'on n'a pas envie de revoir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on échappe à soi-même, on échappe à sa langue. Et donc après, on essaie de dire, bon, très bien, je vais créer ma langue, je vais créer ce que je vais dire. Comme ça, je ne serai plus reprise au piège.
C'est ça, la vraie échappatoire. On crée sa propre langue, comme ça, au moins, on est bien dedans.
Exactement. On l'a choisi à chaque texte.
Dans un espace de liberté, c'est plutôt pas mal.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'indocilité dont vous parliez, Anne, tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de votre indocilité ?
Alors, je vais vous lire le début d'une voix qui mue. L'idée n'est pas de commencer, mais de chercher derrière la concision, la rupture, ce qui lie, fait cette familiarité avec le lieu, son besoin, son désir. Cette répétition du même séjour identique pour retrouver la trace de soi jusqu'au bout, jusqu'à se dénuder, flottement, dans l'espérance qu'aucun changement n'ait eu lieu. Je ne voyage pas, je rentre au bercail, à la nuit de la serre. Ici, je suis née une deuxième fois. Je vais au loin, je retourne au lieu, vérifier les pertes, ce qui reste. Il semble que d'une année sur l'autre, le sillon se creuse. On ne peut s'en empêcher.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette première page. Et je crois que vous allez aussi partager avec nous un conseil de lecture avant de nous quitter. Comme ça, on va garder un petit peu de vous. Donc, je
avec
crois
plaisir.
Que vous avez une proposition à faire à nos auditeurs et à nous aussi, d'ailleurs.
Alors, bon, c'est un livre que j'adore d'une poétesse américaine et ça rejoint tout à fait les conseils d'Eline. Donc, on est tout à fait en phase. Donc, Suzanne Howe, donc la marque de naissance qui est publiée chez une éditrice Ypsilon et traduite par Antoine Cazé, un très bon traducteur de l'anglais. Alors, j'adore ce livre, mais bon, je ne vous conseille pas forcément parce qu'il est extrêmement complexe.
Ah bon et... Alors, c'est un conseil sans être un conseil. On vous le conseille, mais bon, ne le lisez pas.
Voilà.
Oui, c'est ça. Commencez par l'autre livre de Suzanne Howe, chez la même éditrice, qui est Mon Emily Dickinson. Je pense que ça vous semblera plus familier. Donc, elle-même est poétesse, mais comme elle dit, je suis un cormoran de bibliothèque. Donc, elle a dû vivre dans un milieu universitaire entouré de livres. Comment après on fait sa vie en s'éloignant des parents tout en restant dans les livres. Et alors, ce livre est tout à fait étrange, un petit peu comme le vôtre
comme
sur les Indiens. C'est comment les Américains comment l'Amérique se crée, et avec ces espèces de puritains complètement fous, fous de Dieu, et qu'est-ce qu'ils font des Indiens, mais aussi qu'est-ce qu'ils font des femmes blanches déjà. Bon, ils n'en font rien. Et ce livre...
Ça, c'est tout un programme déjà.
Ce livre, justement, marque comment on gomme les femmes de l'histoire. Et comment parler du fait de gommer les femmes de l'histoire?
Alors, ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait un lien, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Oui, je crois.
Très convaincant. Et donc, c'est plein de petits extraits des quelques femmes qui ont réussi à écrire à cette époque. Donc, c'est difficile de couper dans cet ouvrage qui est déjà très... qui a une structure très particulière. Mais je vais juste lire comment Suzanne elle-même se présente. Dans sa préface. Je suis attirée par les disciplines de l'histoire et de la critique littéraire, mais dans la distance des débuts, un obscur mur de règles soutient la structure de chaque lettre, chaque archive, chaque transcription, chaque preuve d'autorité et de pouvoir. Je sais que les archives sont compilées par les vainqueurs et que l'érudition est complice du gouvernement civil. Je le sais bien. Et je continue à chercher quelques traces d'un repli de l'amour dans tout le papier de toutes les bibliothèques où je me rends.
Alors, ce week-end, lecture « Ici n'est plus ici, un autre tambour et la marque de naissance », on va savoir quoi faire.
Et si je peux me permettre, 10 secondes, j'ai commis un terrible impair, je n'ai pas cité les traducteurs.
Oui, alors ça, c'est vrai, il faut toujours citer les traducteurs.
Oui, oui. Alors, pour le Tommy Orange, « Ici n'est plus ici », il est traduit de l'américain par Stéphane Rock.
Oui.
Et un autre tambour, donc de William Melvin Kelly, est traduit de l'anglais, américain également, par Lisa Rosenbaum.
Voilà. Mais donc il n'y a plus d'impair, puisqu'il est réparé. C'est parfait. Non, c'est très important.
La qualité de la traduction, Camille, faites attention là.
On ne sort pas vivante. Non, mais la qualité de la traduction est indispensable pour pouvoir bien ressentir.
On voit que les retraductions d'ailleurs.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on en fait. Donc c'était Nicole Leroux, pardon, Suzanne O, lue par Camille Loivier. Donc, un texte original à lire quand on manque de profondeur, quand on se dit tiens, tout est trop superficiel en ce moment.
Il fait très envie, en tout cas,
ça résiste.
Oui, c'est ce que je comprends. Mais parfois, c'est encore plus agréable parce que sinon on fait un petit effort et on obtient quelque chose. C'est quand même plus agréable que quand tout est trop simple, on s'ennuie beaucoup. Donc là, ce week-end, on ne va pas s'ennuyer, on va se rebeller. Exactement, avec de l'indocilité poétique. Merci beaucoup Camille et Anne d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos interrogations poétiques. Et nous nous retrouverons le mois prochain dans les Voix du Livre avec un nouvel invité dans les studios de BAC FM.